assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour André Gounel et merci Bonjour. De nous avoir rejoints. Nous allons poursuivre notre entretien. La dernière fois, nous avons vu votre histoire, l'histoire familiale. Maintenant, on va un petit peu plus se polariser sur votre parcours. Oui. Alors, on peut dire que après vos études, donc vous devenez pasteur de paroisse.
Oui.
Vous fondez une famille.
Oui.
Et pourquoi devenir pasteur? Est-ce que c'était la vocation parce que c'était la famille? Ou est-ce que c'était suite aux études de philo et de théologie? Enfin, qu'est-ce qui a déclenché la vocation?
Non, c'est tout à fait antérieur à mes études. Au fond, c'est quelque chose dont j'avais manifesté l'envie et le souhait relativement jeune. Alors, on peut dire qu'effectivement, il y a l'imprégnation d'une famille. Quand on est dans une famille aussi pastorale que la mienne, on ne peut pas ne pas se poser la question. On peut dire aussi qu'il y a le mimétisme de l'enfant vis-à-vis de son père. Et je sais que quelquefois, devant des amis, mais même devant la commission du ministère pastoral, j'ai eu en quelque sorte à justifier cette décision, à expliquer que je ne répondais pas simplement à un déterminisme. Et là, je ferai deux remarques. La première, c'est que c'est pas parce que Obélix est tombé dans le chaudron quand il était bébé que la potion n'est pas magique. Autrement dit, c'est pas parce que j'ai commencé à y penser autour des 10 ans que ce n'était pas quelque chose d'authentique, enfin d'authentique, qu'il n'y ait pas une présence divine, disons, pour faire court, une vocation divine. Et ma seconde remarque, c'est qu'il ne faut pas retourner les choses, ce n'est pas la vraie décision a été prise quand j'avais 16 ou 17 ans, au moment de mon baccalauréat. C'est pas la décision qui détermine la vie, mais c'est plutôt la suite de la vie qui donne sens à la décision. C'est quelque chose que Sartre a beaucoup souligné. Par exemple, dans sa pièce Les mains sales, il y a un assassinat, et c'est 20 ans après que l'assassin va décider par l'attitude qu'il prend si cet assassinat est un assassinat sentimental, un assassinat pour une femme, ou si c'est un assassinat pour une raison politique. Le futur donne la signification du passé. Ce qui fait que je crois que les gens qui ont été comme moi dans une famille pastorale, qui se sont engagés par pression consciente ou inconsciente de la famille dans un ministère pastoral sans être vraiment appuyés sur quelque chose de fort, ben ils abandonnent. Ils abandonnent au bout de 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais ils abandonnent. Et que quand on n'abandonne pas, quand on va jusqu'au bout, comme c'est mon cas et le cas de bien d'autres, ce n'est pas une preuve. Mais c'est un signe que ce qui s'est passé là, et moi je dirais c'est quand même vers 16-17 ans, était authentique.
Ah, je vous remercie d'avoir donné cet éclairage, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du passé qui éclaire l'avenir, et en tant qu'historienne, je suis assez sensible à cette dimension. Mais c'est vrai que l'avenir qui finalement justifie une décision, qui valorise une décision, qui la rend valable, effectivement, c'est très intéressant. Et votre parcours montre que effectivement vous avez eu autre chose que seulement le désir d'imiter papa ou grand-papa.
Ça veut dire que l'héritage familial a incontestablement joué un rôle, mais que ce n'est pas l'héritage qui a fait de moi un pasteur.
Oui, oui, oui. Effectivement, là, vous avez été très, très clair et très… comment dirais-je, moi ? Oui, c'est absolument éclairant ce que vous dites. Et alors, donc, la théologie, donc vous êtes pasteur de paroisse, mais vous faites toujours de la théologie, ou
alors,
est-ce que par un moment vous arrêtez ?
Au départ, j'étais attiré, j'aimais la philosophie, et il se trouve que les hasards de la vie font que une des bourses que donnait alors le protectorat du Maroc, puisque nous habitions le Maroc, pour les étudiants, m'a été attribuée pour faire des études de philosophie. J'ai donc fait mes études de philosophie qui m'ont intéressé, passionné. Après d'ailleurs avoir hésité, après m'être demandé si je ne faisais pas plutôt de l'histoire. J'ai opté pour la philosophie et j'ai fait ma philosophie en pensant, en ayant pour projet, quand je l'avais terminé, de devenir étudiant en théologie.
Donc cette philosophie, théologie, finalement, ça s'est poursuivi toute votre vie, c'est-à-dire que vous avez une
réflexion… Alors, ça s'est poursuivi toute ma vie. Quand je suis devenu étudiant en théologie, après 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus exactement, 3 ans de philosophie, j'ai eu un choc. Parce que, en philosophie, on arrive en faculté avec un arrière-fond, l'arrière-fond du lycée, l'arrière-fond, on est à un certain niveau. Quand on arrive en théologie, on a comme arrière-fond le catéchisme, quand on ne l'a pas oublié, et pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut faire de nouveau, recommencer des choses tout à fait élémentaires, par exemple l'apprentissage d'une langue. Alors, pas en grec, puisque je l'avais fait au lycée, mais par exemple en hébreu. Et que ce n'est pas du tout le même type d'exercice auquel j'étais habitué en faculté de lettres, où on n'en est plus à ce niveau-là. Et probablement, cette dualité explique une des raisons qui m'a toujours poussé au travail et à la réflexion, c'est le sentiment d'une distance, d'un décalage entre la culture générale, la culture générale à un certain niveau, et le discours théologique. J'avais l'impression que ça ne collait pas. En théologie, on n'était pas du tout confronté vraiment avec la culture que moi j'avais rencontré au lycée d'abord et en faculté de lettres ensuite. Et il y avait donc la volonté d'établir la différence restant et d'établir un pont, d'établir une corrélation, d'essayer d'être pasteur, d'être théologien en étant, avec ma formation philosophique et en ayant un souci philosophique, et de réfléchir en philosophe en étant pasteur.
Ah oui, alors là, on voit effectivement pourquoi vous êtes devenu professeur.
Oui, alors ça, c'est peut-être lié aussi à mon adolescence. Quand j'ai pris vraiment la décision à 17 ans, 16-17 ans, de devenir pasteur, c'est vrai que j'avais une hésitation parce que j'avais aussi envie de devenir professeur.
Oui, oui, oui.
Le professorat est quelque chose qui m'attirait, à tel point d'ailleurs que quand j'ai terminé mes études de théologie, aussi bien la commission du ministère pastoral qui nous suivait que mon directeur de stage m'ont dit quelquefois que j'avais une conception peut-être un peu trop professorale du ministère pastoral. Alors là, il y avait une sorte de, je dirais volontiers, de double vocation qui a abouti à faire de moi un professeur de théologie.
Oui, et vous avez tiré la théologie vers le haut. C'est peut-être votre plus grande contribution, j'allais vous poser la question, mais je vous la poserai tout à l'heure, de votre rapport au protestantisme, puisque c'est un petit peu ça qui motive nos émissions. Mais je vois tout de suite, en fait, ce que vous avez apporté, c'est de tirer la théologie le plus possible, justement, peut-être pour la mettre à l'égal de ce que vous avez ressenti au niveau de la philosophie, du niveau des étudiants, comme vous venez de le dire, qui en théologie étaient plus faibles en arrivant en début d'études.
Oui. En fait, comme professeur, j'avais le grand désir que mes étudiants ne connaissent pas cette sorte de déception ou cette impression d'un enseignement théologique inférieur en qualité, en profondeur, que ce qui était donné ailleurs.
Ben, on peut au moins témoigner que vous avez réussi sur ce plan-là, puisque avec tous les ouvrages que vous avez écrits, qui sont d'ailleurs tous d'une grande clarté, et qui ont contribué à soulever le niveau, à lever le niveau du protestant de base, pas seulement des étudiants en théologie. Ah oui. Mais moi, je me rappelle que j'étais d'origine catholique, ma première découverte du protestantisme, c'est grâce au petit livre sur les principes du protestantisme. Ah oui. Donc, effectivement, que j'avais trouvé d'une très grande clarté. Alors, on a déjà répondu donc sur votre rapport au protestantisme, et on va continuer.
Je dis un mot de cette brochure parce que c'est tout à fait significatif. C'est le journal de la région ecclésiale qui m'a demandé une année, parce que c'était au programme, de faire une série d'articles sur le protestantisme. Je les ai faits. Et un de mes anciens étudiants les avait découpés, photocopiés comme on faisait alors, pour les distribuer. Et il a envoyé un jour à l'éditeur en disant « Écoutez, ça mériterait d'être édité. » Et l'éditeur m'a écrit, c'était Arnold de Clermont, qui ensuite est devenu président de la Fédération protestante de France, « Est-ce que tu serais d'accord pour publier ça ?» Alors je lui ai dit « Oui, mais je veux quand même le réécrire. » Et je l'ai réécrit, et ce livre naît un peu d'un concours de circonstances, et de tout ce que j'ai écrit, ce qui s'est le plus lu et le plus vendu.
Oui, oui, et on continue à le distribuer parfois aux gens qui s'intéressent au protestantisme, et il va y en avoir dans cette émission qui sont venus au protestantisme plus ou moins grâce à ce livre. Alors, donc maintenant, on est dans le pastorat, alors on va laisser un petit peu la théologie de côté. Est-ce que vous avez été pasteur pendant longtemps, enfin, est-ce que même quand vous étiez professeur, vous étiez toujours pasteur d'une certaine façon?
Oui.
Non?
Bon, ça dépend ce qu'on appelle vraiment pasteur dans le pasteur qui a une paroisse.
Oui, non, pas pasteur de paroisse, mais pasteur dans le sens de…
Alors, pasteur dans le sens de ministre de l'Église.
Voilà, et de guider
Le pastorat, j'ai connu trois formes. La première, ça a été comme aumônier militaire en Algérie, pas par décision, mais parce que, à cette époque-là, quand on faisait son service militaire, au bout de 18 mois, quand on était pasteur, on pouvait devenir aumônier. J'ai donc été aumônier dans la guerre d'Algérie, et j'aime autant dire que ça n'a pas été une période facile. Hein. C'était entre les barricades d'Alger, entre le putsch des généraux. J'avais comme paroissiens des légionnaires qui étaient loin d'être des enfants de cœur. C'était toute une. Ça a été une expérience à la fois enrichissante et éprouvante. Enfin, je me suis dépatouillé comme j'ai pu. J'ai été ensuite pasteur 3 ans à Dijon et 4 ans à Nîmes, donc dans des grandes villes. J'avais demandé à l'Église réformée qui m'avait dit « qu'est-ce que vous souhaitez ?» J'avais dit « je souhaite une paroisse de campagne ». Et le secrétaire général de l'Église réformée m'a envoyé à Dijon. Ils ne sont pas des paroisses de campagne, mais qui montrent qu'il avait une certaine lucidité parce que probablement, j'étais beaucoup plus fait pour ce genre de travail que pour la campagne.
Oui. Et alors, en tant que pasteur, vous avez été le garant d'une certaine morale. À l'époque où vous avez commencé votre ministère pastoral, Vous avez enseigné peut-être pas, je ne crois pas qu'on enseigne la morale, mais enfin, vous avez gardé une certaine morale, notamment sur la conception du couple, sur le sexe, etc. Comment vous avez vécu après la remise en cause de toutes ces valeurs, de ces pseudo-valeurs, la féminisation de la profession, le divorce, les couples de même sexe? Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que c'était difficile pour vous?
Alors, une petite remarque préliminaire, entre parenthèses, la morale a souvent mauvaise presse. Moi, j'ai tendance à la défendre, à dire il faut une réflexion morale, il faut une réflexion éthique sur la vie, et c'est normal de donner des orientations morales et éthiques. Alors, ça, c'est un premier élément. Le second élément, j'ai aussi évolué avec mon temps. C'est-à-dire que au départ, plutôt strict et puritain sur les questions sexuelles, j'étais amené à rencontrer des gens qui étaient peut-être pas dans les normes sexuelles qui étaient celles de vie sexuelle qui étaient celles de mes parents et grands-parents, mais dont je constatais l'authenticité. L'authenticité de foi, l'authenticité de leur relation avec leur partenaire sexuel, ce qui conduit à se poser effectivement des questions et à évoluer. J'ai jamais été opposé au ministère féminin. Je comprenais difficilement cette opposition-là. J'ai participé, tout jeune pasteur, au synode qui ont officialisé le ministère féminin, et je me souviens que les propos de mes collègues plus anciens qui avaient l'âge de mon père sur les femmes pasteurs me faisaient beaucoup rire. Je trouvais qu'ils avaient une vision de la femme anachronique, à la fois romantique par certains côtés.
Vous pouvez donner un exemple?
Oh ben, ils parlaient de qu'est-ce qui se passe si une femme pasteur devient amoureuse du facteur ou du berger. À quoi je répondais, qu'est-ce qui se passe si le jeune pasteur devient amoureux de la servante d'auberge? Et aussi, alors là, ça ne me faisait pas rire, ça m'indignait, une vision liée à celle de ce qu'ils appelaient la pureté. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est finalement les thèses d'un Suisse, par ailleurs tout à fait estimable, bien que je ne partage absolument pas ses opinions sur un tas de choses, qui s'appelait Van Almen, qui était professeur à Neuchâtel, et qui estimait qu'il y avait une impureté de la femme, impureté liée aux règles, impureté sexuelle. Ça me paraissait absolument aberrant. J'ai donné en fin de carrière une fois une page à lire à mes étudiants et ils ont ri comme ce n'était pas possible.
Je comprends qu'ils pouvaient rire beaucoup plus tard, mais effectivement, à cette époque où c'était, disons, plus communément admis, c'était absolument ignoble d'avoir ce genre de position. Et vous l'avez.
Tout à fait, mais je me souviens de propos. Ignoble. Je me souviens de ce pasteur qui me disait, un pasteur âgé, qui me disait, il n'y a qu'à nommer deux ou trois femmes pasteurs, et puis très vite, au bout de deux ou trois ans, ce sera la catastrophe et on n'aura plus envie d'en nommer. C'est le contraire qui s'est passé. On a vu combien le pastorat féminin a enrichi dans un premier temps le pastorat français. Et actuellement, il est devenu bien difficile de faire des distinctions. Alors, il y a eu ça. Il y a eu plus tard la rencontre avec ce problème qui a tellement secoué l'Église réformée, le problème de la bénédiction des mariages
de même sexe.
Où là, d'emblée, je l'ai rencontré en France, je l'ai rencontré aussi au Canada, dans l'Église unie du Canada, Église large, mais qui a failli se briser là-dessus. Et je dois dire que j'avais de la peine à prendre, à donner une très grande importance à ces problèmes. Il y a un vieux proverbe qui dit « De intimis non judicat ecclesia ». que l'Église ne se mêle pas des choses alors intime, c'est intérieur plutôt que ce qui relève de la sexualité, forcément. Mais je trouve que, finalement, la tradition chrétienne, et ça en protestant, en tout cas dans ma famille, comme dans le catholicisme, on a accordé une beaucoup trop grande importance à la sexualité. Que dans la sexualité, le message chrétien, c'est celui du respect de la personne du partenaire. Que ça, c'est fondamental. Le respect interpersonnel. Et pour le reste, peu importe.
Merci beaucoup. On va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Après cette pause musicale, pour continuer notre discussion sur cet itinéraire un peu hors norme du pasteur et du théologien. Alors, sur le plan du libéralisme, on vous considère comme le protestant libéral. Quand on parle de libéralisme protestant, on pense aussitôt André Gounel. Est-ce que cela vous plaît ou est-ce que cela vous agace? Est-ce que vous pensez que cela vous enferme ou est-ce que c'est une étiquette que vous trouvez suffisante et
Alors, une remarque sur les mots. C'est d'ailleurs quelque chose qui compte pour moi et dans mes textes, dans mon enseignement, j'ai souvent accordé une très grande importance à la définition des mots. Alors, le mot libéral, quand on parle de protestantisme libéral, doit être compris au sens du XIXe siècle, pas au sens du XXe siècle. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les libéraux sont ceux qui sont partisans de la liberté personnelle et de la liberté individuelle. On le voit par exemple avec, en politique avec Benjamin Constant, c'est tout à fait typique. Benjamin Constant, peu lui importe qu'un État soit démocrate, soit impérial ou soit royal, ce qui compte, c'est que la liberté individuelle soit assurée. Et on voit ça aussi avec le premier emploi en théologie du mot libéral qui date de Semler. Enfin, je ne rentre pas là-dedans. Aujourd'hui, par libéral, on entend laisser faire. Et c'est tout à fait autre chose. On entend l'absence de règles. Les libéraux du XIXe siècle sont au contraire des gens qui établissent des règles. Ils établissent beaucoup de règles pour défendre la liberté. Et de ce côté-là, il arrive que le mot libéral me gêne parce que nos contemporains ne le comprennent pas. Ils le comprennent dans le sens du libéralisme économique. Ils le rattachent à Adam Smith en faisant contresens d'ailleurs de ce qu'a dit Adam Smith, peu importe. Et ils ne voient pas du tout ce dont il s'agit. Ce qui explique que des libéraux comme mon oncle Élie Gounel étaient en même temps socialiste, partisan d'une économie dirigée, etc. Enfin, ce n'était pas du tout contradictoire. Alors ça, c'est une mise au point sur le sens du mot libéral. Et quelquefois, nous nous sommes demandé, mes compagnons et moi, quand je dis mes compagnons, je pense à Laurent Gagnebin et à Bernard Raymond, avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup échangé, avec qui nous avons des liens forts d'amitié, nous nous sommes demandé s'il faudrait ou pas un autre mot. On n'en a pas trouvé, c'est pas si simple que ça. D'autre part, j'aime bien aussi qu'on garde les mots dans le sens authentique et que ce soit le sens inauthentique qui soit écarté.
J'ai une anecdote à ce sujet. Quand j'ai soutenu ma thèse, un des examinateurs a mélangé libéral avec libriste, ce qui était quand même grave pour un professeur d'histoire contemporaine, d'histoire contemporaine. Mais effectivement, bon, alors là, c'était un cas un peu particulier. Ce que vous dites, effectivement, pour les gens qui ne sont pas protestants, de parler de libéral peut faire amener à comprendre une position politique.
Libriste, c'est tout à fait autre chose. Libriste, voilà. C'est lié au livre, hein. C'est lié à l'attachement au livre. C'est quasiment fondamentaliste, libriste. Alors là, il y a donc une précision à donner sur le mot. Ceci dit, moi j'étais président de l'association Évangile et Liberté, nous préférions cette formule, Évangile et Liberté, à la formule de libéral, et je n'ai jamais, je ne cache pas, mon libéralisme, je l'assume tout à fait, une fois le mot expliqué. Et je dois dire qu'une des choses dont je suis fier, probablement de manière un peu ridicule et à tort, on n'a pas à être fier de ce genre de choses, c'est que, effectivement, en France, le mot protestantisme libéral soit assez attaché aux thèses que j'ai défendues, aux orientations que j'ai prises. J'ai dit quelquefois que on ne me définissait pas en disant que j'étais libéral, mais qu'on définissait le libéralisme à partir de moi.
D'accord. Oui, mais c'est pas faux. Et c'est vrai que pour les gens qui s'intéressent au protestantisme, ils comprennent très vite le sens du mot protestant libéral et ils ne font pas la confusion avec le libéralisme politique ou économique. Ça a dû quand même imprégner la société plus qu'on ne le pense, finalement, vos thèses. Mais j'aime beaucoup, moi, Évangile et Liberté. Je trouve que c'est vraiment un très beau titre. Et plus beau que, effectivement, juste libéral. Et alors, quand vous avez été critiqué par des milieux fondamentalistes, on vous a certainement reproché un manque de piété, une trop grande distance. Alors, la dernière fois, vous aviez déjà répondu un petit peu en parlant d'une forme de pudeur, de votre expérience qui vous appartient et qui n'est pas forcément divulgable parce que ça vous appartient. Mais est-ce que Est-ce que vous avez ressenti ces critiques comme quelque chose d'injuste ou est-ce que vous les avez balayées d'un revers de la main?
Oui, alors d'abord, je dois dire que dans ma propre Église, l'Église protestante unie de France, l'Église réformée de France, qui n'était pas d'orientation libérale majoritaire, je n'ai jamais été soupçonné, à ma connaissance, et je n'ai jamais été mis en cause. J'ai été nommé professeur de théologie par un synode, par un vote synodal, à la quasi-unanimité, alors qu'on savait que j'étais engagé dans Évangile et Liberté. On m'a confié des responsabilités, on n'a jamais eu la moindre, comment dirais-je, la moindre surveillance ou la moindre consigne sur ce que je pouvais enseigner. Ça, c'est un premier point. Mon second point, c'est que dans mon enseignement, bien sûr, je disais ce que je pensais, quelquefois pas toujours d'ailleurs, mais je me suis toujours refusé, à la différence de certains de mes collègues, tout à fait estimables d'ailleurs, ce n'est pas une critique, mais moi je me suis toujours refusé à faire des disciples. Je voulais donner à mes étudiants à la fois des informations et des manières de penser, de raisonner, qui leur permettaient de se faire leur propre opinion. Et leur propre opinion pouvait être, ou leurs propres orientations pouvaient être tout à fait différentes des miennes, ça, ce n'était pas un problème. Alors, dans les années 60-70, 80 encore, c'est vrai que j'ai eu des critiques assez virulentes, dont certaines m'ont laissé indifférent, dont d'autres m'ont touché. J'ai essayé de correspondre avec les gens qui les faisaient, de m'expliquer avec eux. Quelquefois, ça s'est très bien passé, quelquefois, ça n'aboutit à rien. Il y a eu quelques mauvais moments dans ces échanges, et j'ai eu des moments de rage ou de colère que j'ai dû surmonter, parce que dans ce qu'il y a d'injuste, de faux, dans certaines des attaques que j'ai subies, par exemple, je pense à un pasteur qui avait fait courir le bruit qu'un de mes étudiants s'était suicidé parce qu'il avait perdu la foi dans mes cours. Alors, j'ai vu des étudiants qui se soient suicidés, mais que dans ces médisances, il y a derrière une souffrance. La souffrance de celui qui dit ça. L'incompréhension de celui qui dit ça. Et que ça, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas oublier que l'autre, quand il vous attaque, le fait à partir de quelque chose qui le blesse.
Il faut avoir une bonne faculté de distanciation par rapport à l'attaque pour pouvoir réagir effectivement comme ça, parce que je suppose que ça ne doit pas être très agréable d'entendre ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à quelqu'un qui est victime de ce genre de calomnie et pour l'aider justement à comprendre l'autre? Ce n'est pas très évident, ça, de prime abord.
Ce n'est pas très évident. Il faut écouter, il faut lire ce qu'il a écrit, ce dont il est nourri, et lui répondre toujours autrement que par l'injure et la contre-attaque. Essayer de lui répondre en lui montrant qu'on le prend au sérieux. Maintenant, c'est vrai que ça s'enracinait très vite dans le fait que, comme j'avais écrit, comme j'avais une certaine, malgré tout, une certaine audience, que j'étais, comment dirais-je, que d'une certaine façon, l'attaque ne pouvait pas aller très très loin. Je ne pouvais pas me mettre réellement en cause dans mon ministère. Jamais l'attaque n'a conduit à ce qu'on veut, par exemple, me destituer de ma charge de professeur. Hein, c'est arrivé à, à d'autres, dans d'autres milieux, dans d'autres circonstances. Mais moi, jamais.
D'accord. Ben, merci pour ce témoignage qui nous introduit un petit peu à ce qu'on verra la prochaine fois. C'était la dernière fois, la prochaine fois qui sera la dernière de nos entretiens, qui portera un petit peu sur sur le passage du flambeau, sur votre testament, en quelque sorte, les choses que vous voulez transmettre au protestantisme. Merci beaucoup pour encore une fois, ce témoignage pendant cette séance. Et puis, je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, André.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.